Jean-Michel Rascol, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes de retour à l'INSEP une nouvelle fois, comme tous les jeudis, rendez-vous à la cafétéria de l'INSEP. On est sur le chemin des Jeux Olympiques et aujourd'hui, on va parler d'athlétisme et tir à l'arc.
Ah, le tir à l'arc, une école de concentration, de patience, avec au bout parfois des résultats. C'est très intéressant de recevoir des archers aujourd'hui. Et puis l'athlé, l'INSEP, c'est un petit peu aussi sa maison. Hein. Il y a un superbe stade couvert ici à l'INSEP. On recevra Gany Yalouz, le DTN de la Fédération Française d'Athlétisme. Une équipe voilà, qui est déjà en sprint pour Londres, qui va bientôt disputer d'ailleurs des championnats du monde en salle.
Gany Yalouz, bienvenue sur RTL, ici à la cafétéria de l'INSEP.
Oui, merci, c'est gentil. On est bien chez vous.
C'est vrai.
L'INSEP, ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est devenu un peu chez nous, Jean-Michel.
Bah oui,
on a vraiment pris nos marques.
C'est
oui,
ici. Hein.
C'est surtout chez lui parce qu'il a connu la cafette en tant qu'athlète.
Exact.
Il l'a connu comme dirigeant. C'est un petit peu surtout sa maison.
C'est ma deuxième maison, ça c'est sûr. Ouais.
Ça fait combien de temps, Gany? Vous connaissez l'INSEP?
Je suis obligé de le dire.
Ouais, faut le dire.
88.
88. Ouais. Donc d'abord
lutteur. Ouais. Jusqu'en 2000.
Médaillé aux Jeux.
Ouais, jusqu'en 2000, et puis après, entraîneur à la DTN de la lutte et de l'athlé aujourd'hui.
Mais c'est un DTN en tenue d'entraîneur, en fait.
Il complètement mangé sportif.
Là, il a mangé commencé à manger.
Il est super proche, il a mangé avec les sportifs.
C'est très
tout.
Fluo, mais
c'est
comme il change
humain.
De fédération au fur et à mesure de sa carrière, il est loin d'être parti d'ici. Il va rester pratiquement toute sa vie sur le rythme qu'il a pris.
Non, mais je ne fais pas toutes les fédérations non plus. Non.
En tout cas, c'est un formidable meneur d'hommes qui mène parfaitement bien les... La direction de la Fédération Française d'Athlétisme.
Alors, on va accueillir des archers. Gany, tu connais bien les archers également, membre de l'équipe de France.
Je connais, oui, j'ai un ami qui s'appelle Sébastien. Oui,
Sébastien
Flute. Qui était le premier champion olympique à Barcelone, qui nous a tous fait rêver et qui a mis vraiment cette belle discipline et qui le mérite parce que c'était la première fois qu'on voyait des duels. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à l'époque. Et puis, j'ai toujours des bonnes relations effectivement avec Sébastien.
Donc, c'est en
92. La jeune génération, je la connais bien. Je sais qu'il y a du talent. Il y a du potentiel médaillable.
Voilà, Sébastien Flute était il y a 20 ans. Il tente un comeback, mais il y a une jeune garde là.
Oh, mais ils vont
qui
pas
ne
le
veut rien lâcher.
Ils vont
qui
pas
ne
le
veut
laisser.
Rien lâcher.
Moi, je lui ai dit à Sébastien, t'inquiète, ils vont pas te faire de cadeaux les genoux derrière.
Et on va les présenter. Il y a Romain Girouille qui est avec nous, notamment champion d'Europe en 2010. Salut Romain, bienvenue.
Oui, bonjour.
Et on accueille également Jean-Charles Valadon.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Puis, bienvenue à vous aussi. Hein.
Ah ben non, mais c'est un plaisir.
Non, mais chez nous, mais vous êtes à moitié chez vous aussi.
Et on accueille également Gaël Prévost. Salut Gaël.
Bonjour.
Alors, vous êtes une équipe qui est devenue une référence au niveau mondial, car si je ne dis pas de bêtises, vous êtes double vice-champion du monde 2009-2011. Donc, j'ai envie de vous mettre la pression, Jean-Charles Valadon. Il faut absolument aller nous chercher une médaille parce que l'équipe est qualifiée, mais vous devez encore aller chercher chacun vos billets pour cette équipe. Il nous faut une médaille à Londres.
Donc voilà, c'est bien ça. Suite au championnat du monde à Turin, cette année où on finit vice-champion du monde, on a récupéré nos quotas pour loger. Donc ça veut dire que l'équipe de France de tir à l'arc a 3 places pour aller aux Jeux Olympiques, ce qui qualifie une équipe. Mais au jour d'aujourd'hui, les 3 noms ne sont pas encore définis. Ce n'est pas Romain, Gaël et moi qui avons récupéré ces quotas qui iront. C'est dans 3 semaines à Vittel. Là, on a une première sélection à Vittel pour créer un collectif de 8 personnes. Et c'est dans ce collectif de 8 personnes qu'à l'issue de la mi-saison, après plusieurs Coupes du Monde, la fédération décidera d'envoyer les 3 plus forts, l'équipe la plus qualifiée aux Jeux Olympiques.
Très bien. Alors, vous rêvez des Jeux Olympiques, mais on avait eu un débat. On a beaucoup parlé dernièrement, Jean-Michel, dans cette émission du porte-drapeau. On a parlé aussi de la cérémonie d'ouverture. Parce qu'il y a Gany Yalouz, le DTN de l'athlé français, qui a décidé d'interdire la cérémonie d'ouverture à ses athlètes.
Mais non, mais j'ai interdit rien du tout. Sauf que c'est du bon sens. On arrive en deuxième semaine, donc ils ne vont pas faire l'aller-retour. Et puis, j'ai personne... Moi, j'ai toujours un souvenir de Ladji, de Leslie John à Pékin. La cérémonie d'ouverture, ça a duré plus de 4-5 heures. Bah, ils l'ont payé cash. C'est peut-être ce qui a manqué pour que Ladji aille chercher cette troisième place. Voilà, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent certainement faire la cérémonie d'ouverture. Mais la finalité, c'est de faire la cérémonie de clôture avec une médaille autour du cou. Je pense que c'est un meilleur moment, on va dire.
Vous confirmez ça, Romain ?
Oui, effectivement. Donc nous, on n'aura pas l'occasion de faire la cérémonie d'ouverture, étant donné que les matchs par équipe pour les garçons sont le lendemain. Les filles avaient la possibilité de le faire. Je crois qu'il a été, entre guillemets, à peu près du même ordre chez nous. C'est-à-dire qu'elles vont rester, je pense, à se reposer avec nous au village, étant donné qu'elles ont les matchs par équipe 2 jours après, justement pour ne pas risquer de se fatiguer étant donné que les cérémonies d'ouverture sont relativement longues.
Alors, on l'a dit, hein, c'est la jeune génération qui débarque aujourd'hui et qui va tenter d'aller chercher pourquoi pas une médaille. Romain et Jean-Charles, vous avez 23 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Hein, sur la route des 24 ans. Et il y a Gaël Prévost. Alors Gaël, lui, va avoir 18 ans la semaine prochaine. Et Gaël, est-ce que c'est l'archer le plus talentueux qu'on ait vu depuis des années débarquer dans le monde du très haut niveau chez vous ? Romain, avant de donner la parole à Gaël.
Disons que ça marche par vague, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques éléments qui se détachent par rapport à la masse de compétiteurs de haut niveau qu'il peut y avoir sur le plan national. Et Gaël en fait partie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui, comme Jean-Charles et moi, à une certaine période, on s'est détaché en fait du groupe pour vraiment être au-dessus. Et il fait vraiment partie de ces quelques personnalités.
Gaël, seulement 18 ans, on se rend compte de la chance qu'on a d'être en équipe de France, d'avoir été champion de France, je crois, à 15 ans, et pourquoi pas aller aux Jeux Olympiques, précoce, hein.
Ah oui, c'est sûr, c'est une chance énorme. Bah, j'ai un petit peu de mal à le mesurer parce que je suis dans l'action là, à m'entraîner avec Jean-Charles et Romain tous les jours, à avoir le même rythme. Mais vu de l'extérieur, ouais, je pense que c'est quelque chose de vraiment bien.
Jean-Charles, lui, il espère aller aux Jeux Olympiques. Il a déjà fait les Jeux avec Romain en 2008 à Pékin, donc pour le tir à l'arc. Mais il rêve de faire du tir également.
Une double vie olympique, non. Bah, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment le tir à l'arc. Hein. Je suis lancé là-dessus. Avec Romain, on a fait les Jeux à Pékin. Là, on a quand même l'objectif principal, c'est de faire ces Jeux et sans doute d'aller chercher une médaille à Londres. Je repartirai, et c'est évident, pour 4 ans pour aller faire les Jeux de Rio de Janeiro. Et après, je ne sais pas le déroulement de ma vie.
Est-ce que vous êtes pratiquant, hein? Donc, vous avez un record, je crois, chez vous, du côté de Besançon. Vous avez tué le plus gros sanglier de la région.
Là. Là, c'est Besançon, là.
Oui, c'est un bisontin.
Un vrai bisontin.
L'accent, on le ressent, ouais.
Un petit peu, ouais. Surtout que j'ai passé un week-end chez moi, donc là,
c'est pareil, moi.
Dans 3-4 jours, ça.
Tu vois, moi, c'est un peu, ouais, moi aussi.
D'accord, mais le sanglier.
J'ai vu l'histoire.
Encore pas. Non, c'est la petite anecdote que, oui, je suis chasseur et puis chasseur à l'arc aussi. Et que, il y a 3 ans, j'ai tué un des plus gros sangliers de la région, à 158 kilos à l'arc. Donc, ça a été quand même une très belle.
Une belle
prise. Ouais, on peut dire ça. Un très beau trophée, en fait, pour moi. Qui a été déjà le plus gros.
À quelle distance ?
J'ai tiré à 18 mètres. Parce que de toute façon, à l'arc, on fait de la chasse à l'approche ou à l'affût. Donc, on tire forcément des bêtes très proches.
Il ne faut pas rater, hein, parce qu'à 18 mètres, la bête, elle est sur vous, non ?
Ouais, c'est à peu près ça. On n'est vraiment pas très, très loin. Bon, faut pas avoir peur, d'accord. Mais quand on est passionné, c'est pas quelque chose qui fait peur. Hein. Voilà, j'ai peut-être prévu, pourquoi pas, d'entamer une carrière dans le ball trap. J'aimerais bien.
Il faut prendre conseil auprès de Gany Yalouz, parce que lui, il était lutteur. Aujourd'hui, il est DTN de l'athlète. Il a été DTN de la lutte. Comment on passe d'une discipline à l'autre comme ça ? Parce que je me dis, les athlètes doivent te regarder. Gany, ils te disent, attends, tu n'es pas crédible. Gany, tu viens de la lutte. Tu n'as jamais fait d'athlète de ta vie.
Il n'y a pas à parler. Il y a juste que moi, je me dis qu'on est la famille du sport. Et le fait qu'on soit tous sportifs, je crois qu'on fonctionne tous un peu de la même façon, que ce soit du tir à l'arc, de l'escrime, du judo, de la lutte. Et je vois pas pourquoi l'approche serait différente avec un tireur, avec un escrimeur ou quoi que ce soit. Donc moi, tout simplement, c'est juste de la proximité, de comprendre un peu le... Je suis pas là pour apprendre à la G de raser une haie ou à Renaud Lavidelli à franchir 6 mètres. C'est pas mon job, c'est pas ce qu'on me demande de faire. Moi, c'est juste de mettre en place une stratégie, on va dire ça, avec un de mes collègues qui est à mes côtés, que vous allez
Michel Sicard, entre autres. Salut Michel.
Salut.
Voilà, et qui nous accompagne là-dessus. Après, moi, j'ai plutôt un rôle de facilitateur, de créer du lien, de la proximité, de décloisonner les spécialités, mais
de dédramatiser, de créer de la convivialité, de
les embêter au quotidien sur leur double projet, parce que faut que le sport ne reste que du plaisir. Et il faut aussi penser à sa reconversion. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et puis c'est tous ces ingrédients qui font que, je pense qu'on peut. On ne demande pas à un ministre. Je me compare pas à un ministre. Hein, on va pas faire le RTL de dimanche soir avec David, mais un ministre passe bien d'un portefeuille de l'intérieur à l'agriculture ou quoi que ce soit. Sauf que nous, je pense qu'un Michel Sicard, un Claude Fauquet, un Philippe Bana, un Guar, c'est des gens qui peuvent être DTN d'une fédération comme ils le sont aujourd'hui, comme ils peuvent être DTN d'une fédération de boxe ou d'un autre sport.
Michel, tu confirmes ça ?
Ouais, je confirme, je pense qu'Andy a raison, chacun son boulot, le DTN il n'est pas pour supplanter les entraîneurs. Les entraîneurs ils sont là pour accompagner les sportifs vers là où ils veulent aller, ou peut-être même où ils ne savent pas où ils vont être capables d'aller. Mais nous on est là pour poser une stratégie, pour manager l'ensemble de. Et puis pour faire rêver aussi. Hein.
Jean-Michel.
Et puis l'avantage de venir de l'extérieur d'un autre sport, ça permet d'ouvrir les portes des différentes chapelles, et Dieu sait qu'il y en a en athlétisme, et ça permet d'unir les compétences plutôt que de voir justement ces clans s'éloigner, et bien de les rassembler. Il faut quelqu'un de l'extérieur qui soit crédible. C'est aussi la force aussi de Gany de rassembler autour de lui.
Voilà l'importance de gérer la psychologie de l'athlète. Et ça, c'est une transition toute trouvée pour vous, messieurs les archers. Romain Girouille, moi, il y a quelque chose qui me fascine. dans le tir à l'arc, c'est la difficulté de la discipline et surtout la gestion de l'émotion. C'est-à-dire arriver devant cette cible, à se calmer, à gérer une mauvaise performance sur une flèche où on fait un 7 sur 10. Comment on gère ça ?
Alors oui, c'est vrai que c'est un peu notre... Le maillon faible en fait de la plupart des compétiteurs en tir à l'arc, c'est-à-dire que c'est la gestion du stress. La gestion du stress, c'est quelque chose qui se gère notamment par le fait aussi de dédramatiser aussi, notamment quand il y a une mauvaise performance comme vous le disiez sur une flèche, c'est-à-dire que voilà, il peut y avoir on n'est pas des machines. Hein. Faut vraiment toujours avoir la tête sur les épaules au maximum de façon à ce que le stress ne vienne pas perturber en fait toute cette stratégie qu'on a mis en place en amont déjà à l'entraînement et celle qu'on veut appliqué en fait en compétition.
Jean-Charles, Gaël, avant de faire une petite pause et de se préparer pour le quiz qui est le moment incontournable de cette session à l'INSEP dans Destination Landreau 2012, est-ce que vous avez souvenir, est-ce que vous pouvez nous raconter un moment de doute, un moment de trou noir et puis un moment où vous êtes un petit peu en dehors de votre corps, sur un nuage, c'est-à-dire que là vous survolez la compète. Ça vous est arrivé ça ou pas?
Ah oui, moi pour ma part, il y a eu un moment sur le fameux trou noir là. C'est les Jeux Olympiques, la première fois là, à Pékin. Avant de rentrer sur le tir de qualification, tout ça, on était vraiment un peu sur la découverte puis l'euphorie du truc, donc ça s'est très bien passé. Par contre, arrivé en match, là, sur mon premier match, où on est rentré dans l'arène, on a toujours fait des matchs sur les Coupes du Monde, où on était quand même beaucoup sur le pas de tir, ou même arrivé sur des phases finales, où on se retrouvait face à face contre son adversaire avec 200 personnes dans les tribunes, 300. Là, arrivé aux Jeux Olympiques, il y en avait 4000. Avec les caméras et se retrouver là seul avec son entraîneur derrière, mais quand même seul sur le terrain face à ses deux cibles avec notre tête derrière la cible sur un grand écran de 5 mètres sur 5. Là, je me rappelle que oui, je pense que les trois premières flèches, il y a eu un, comme on peut le dire, un bon trou noir de oula, va vraiment falloir que je déconnecte parce que sinon je m'en sortirai jamais. Quoi.
Et ça s'est terminé comment ?
C'est terminé que j'ai perdu d'un point mon match.
Aïe.
Dommage. On espère faire mieux quand même.
Ouais, c'est une bonne expérience.
Le rôle de la respiration dans cet exercice, il est important ?
Alors le rôle de la respiration, ouais, est très important. Après, c'est pareil, chaque individu gère son stress et ses émotions différemment. Moi, je sais personnellement que ici à l'INSEP, en plus, on a travaillé un peu sur la gestion des émotions en passant par la respiration. Ça nous a vraiment aidé et ça nous permet de réguler un peu notre rythme cardiaque et notre cohérence cardiaque qui fait qu'on arrive à se reconcentrer et de rester sur ce qu'on a à faire, sur le tir, le résultat en cible et faire abstraction de tout ce qui est autour, quoi.